Alors, je vous propose d'ouvrir vos Bibles dans Exode 30. Nous allons lire dans Exode 30. Et nous avions mentionné la dernière fois un autel qui se trouve à l'intérieur du tabernacle. Et peut-être quelqu'un peut lire du verset 1 au verset 6, ou même. Ah oui, non, ça va même plus loin. Hein. On va aller jusqu'au verset 10. Exode 30. 30.
Tu feras un autel pour brûler des parfums, tu le feras de bois d'acacia. Sa longueur sera d'une coudée, et sa largeur d'une coudée. Il sera carré, et sa hauteur sera de deux coudées. Tu feras des cornes qui sortiront de l'autel. Tu le couvriras d'or pur, le dessus, les côtés, tout autour, et les cornes, et tu y feras une bordure d'or tout autour. Tu feras au-dessous de la bordure deux anneaux d'or, aux deux côtés. Tu en mettras aux deux côtés pour recevoir les bas qui serviront à le porter. Tu feras les bas de bois d'acacia et tu les couvriras d'or. Tu placeras l'autel en face du voile qui est devant l'arche du témoignage, en face du propitiatoire qui est sur le témoignage et où je me rencontrerai avec toi. À Aaron, il fera brûler du parfum odoriférant. Il en fera brûler chaque matin lorsqu'il préparera les lampes. Il en fera brûler aussi entre les deux soirs lorsqu'il arrangera les lampes. C'est ainsi que l'on brûlera à perpétuité le parfum devant l'Éternel parmi vos descendants. Vous n'offrirez sur l'autel ni parfum étranger, ni holocauste, ni offrande, et vous n'y répandrez aucune libation. Une fois chaque année, Aaron fera des expiations sur les cornes de l'autel avec le sang de la victime expiatoire. Il y sera fait des expiations une fois chaque année par de vos descendants. Ce sera une chose très sainte devant l'Éternel.
Merci. Alors, peut-être que vous avez déjà visualisé hein, le tabernacle hein, ainsi que les différents éléments. Alors, voilà un peu à quoi pouvait ressembler un autel. On a essayé de le concrétiser. Donc, il y a. J'avais trouvé dans un magazine aussi des éléments de. Voilà, et vous pourrez les voir plus en détail tout à l'heure. Donc, c'est cet autel qui était assez petit, hein, puisque les dimensions, c'est 50 cm de côté hein, et 1 mètre de haut. Donc ça fait vraiment un tout petit meuble. Hein. Et c'est là où étaient donc les parfums. Alors, la fabrication elle-même, comme pour l'arche, hein, était quelque chose d'assez fort. Il y avait, d'abord, il était fait en bois, donc un matériau qui pousse, hein, qui pousse de la terre, et ça, c'est du bois d'acacia. Un arbre robuste hein, qui se trouve qui prolifère hein, dans le Sinaï, dans le désert. Et il va servir beaucoup à la construction du tabernacle. Et la texture de ce bois est très, très forte. Il est imputrescible. C'est un bois très résistant. Mais si vous allez en Israël et vous regardez un arbre, un acacia, vous verrez aussi que c'est un arbre qui a des épines très très grosses. C'est pas comme nos acacias, nous. Hein? C'est des arbres qui ont de très longues épines. Et il est possible que la couronne d'épines du Seigneur ait été prise avec les épines du bois d'acacia. En fait, le bois d'acacia, quand on parle de la symbolique du tabernacle, représente vraiment l'humanité de Christ. Et après, il est couvert d'or. Et l'or, c'est ce matériau noble hein, qui fait penser à la royauté et au côté divin de Christ. Donc, c'est les deux choses en même temps qui apparaissent souvent dans les différents éléments du tabernacle. Alors, l'emplacement de cet autel était devant le voile. Et ce grand voile, qui faisait que l'intérieur du tabernacle, hein, vous voyez le tabernacle hein, tel qu'il est là, il a deux parties, il a deux pièces en fait, le lieu saint et le lieu très saint. Donc dans le lieu saint, il y avait trois choses, hein, vous vous souvenez, le chandelier, la table avec les pains, nous avons vu la dernière fois, et cet autel de parfum. Et tous les matins, le sacrificateur venait et brûler des parfums sur cet autel. Et de l'autre côté du voile, il y avait bien sûr l'arche, où il est dit c'est là que je me rencontrerai. Hein, l'arche était un coffre tout à fait particulier qui, dans lequel étaient contenues plusieurs choses. Sur ce coffre, il y avait un couvercle et il y avait deux chérubins qui était sculpté sur ce couvercle, et la gloire de Dieu descendait là. Et l'homme arrivait avec le sang des victimes jusqu'à ce point de rencontre. Donc c'était un endroit propice entre le Dieu parfait et l'homme souillé. C'est pour cela même que le couvercle de l'arche s'appelle le propitiatoire. Mais tout cela se faisait d'après un protocole très 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 précis qui était sous la responsabilité des sacrificateurs. Après, quand on prendra le temps la prochaine fois de lire un peu plus le livre aux Hébreux, parce que vous allez voir, tout s'éclaire de façon magistrale avec ce livre, les sacrificateurs, ce qu'ils faisaient, comment ils étaient, même comment ils étaient habillés, toutes leurs actions préfigurent tout le ministère de Christ. Mais aussi, c'est pas simplement le sacrificateur, mais même tous les éléments qui composent le tabernacle indiquent des éléments du Seigneur. Et comme nous, dans le Nouveau Testament, nous sommes en Christ, en lui, nous pouvons reproduire ce que font les sacrificateurs. Nous avons le droit, finalement, d'offrir des parfums, c'est-à-dire nos prières. Nous avons le droit d'aller dans le lieu très saint. Et nous voyons dans le livre aux Hébreux qu'il est même écrit maintenant nous avons une entrée, un libre accès dans le lieu très saint par Jésus-Christ. Et donc, tout ce que pouvait faire Christ en lui devient notre privilège. Tout ça, c'est clair. Ouais. Et c'est ce tabernacle, après, qui va devenir, c'est le même plan, en fait, qui sera sur le mont du Temple à Jérusalem, en dur. Là, c'était une version qui pouvait se démonter, puisque le peuple voyageait dans le désert. Après, ça sera en dur. Voilà. Donc, l'autel d'or était placé devant le voile, qui cachait l'arche de l'Alliance. Et c'était. Cet autel était précieux dans le lieu saint. Il était le moyen par lequel les prêtres pouvaient exercer un ministère de. En fait, c'était comme un ministère de prière. Nous avons lu un verset la dernière fois avant de nous séparer. Est-ce que vous l'avez retenu ? C'est le psaume 141, verset 2. Psaume 141, verset 2. Soit devant toi comme l'encens. Et donc tous les matins, le sacrificateur venait faire brûler des parfums. Et il y avait là aussi un feu qui brûlait continuellement. Et il était important que le sacrificateur veille à ce que ce feu ne disparaisse pas. Alors, Lévitique chapitre 10, nous allons aller dans Lévitique chapitre 10. Ce que la Bible nous apprend, c'est que le brasier de cet autel provenait du brasier de l'autel extérieur, en fait. Alors on dirait, bon, un feu est un feu, hein, mais non, pour le Seigneur, ça avait de l'importance, parce que ce qui allait être brûlé, ce qui allait permettre l'encens de brûler, avait la même base que le sacrifice qui permettait l'expiation. Et au fond, il y a un lien direct. Évidemment, nous savons que tous les peuples, toutes les nations, toutes les religions prient. Mais est-ce selon Dieu ou est-ce un feu étranger? Alors, on va lire Lévitique 10. Les fils d'Aaron, donc ce n'est pas n'importe qui, c'était quand même les fils des sacrificateurs, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, y mirent le feu et posèrent du parfum dessus, et ils apportèrent devant l'Éternel le feu étranger qui ne leur avait pas été ordonné. Alors, vous voyez, c'est des petites choses, c'est des détails pratiques, mais c'était très 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 pointu. Et il y avait une marche à suivre de laquelle il ne fallait pas du tout dévier. Hein. Alors le feu sortit devant l'Éternel et les consuma, et ils moururent. Moïse dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit, « Je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi, et je serai glorifié en présence de tout le peuple. » Aaron garda le silence. Donc Moïse appela Michaël et Elsaphan, fils d'Uziel, oncle d'Aaron, et leur dit, approchez-vous, emportez vos frères loin du sanctuaire, hors du camp. Vous voyez, c'est un incident, je ne sais pas si vous le connaissiez, cet incident. Hein, c'est un incident assez fort. Je ne sais pas quelle leçon vous en tirez, si vous lisiez ça le matin avant d'aller travailler. Quelle application pourriez-vous en tirer?
Pas de feu étranger.
Oui.
Ouais. On
ne peut pas faire n'importe quoi. Si vous commencez à rapprocher des passages qui leur ressemblent, c'est intéressant. Y en a une petite liste. À un moment donné, Dieu dira à Moïse, dit à Aaron de ne pas s'approcher continuellement, parce qu'il faisait des va-et-vient dans le sanctuaire, de peur qu'il ne meure. Donc il y avait des attitudes, il y avait des choses à faire. Et cela nous interpelle parce que si l'autel des parfums est une image de prière qui monte vers Dieu, ça nous montre bien que même le fait de prier ne signifie pas forcément qu'on s'approche de Dieu. Et que Dieu veut qu'on le prie, mais sur une base claire. Et c'est quelque chose de très important. On ne peut pas arriver avec un feu étranger, basé sur autre chose. C'est-à-dire un feu étranger, ça ne serait pas le feu de l'autel qui a servi à sacrifier des victimes. Alors il y a des gens qui sont zélés et qui prient Dieu, mais c'est exactement ce que dit Romains 10. Si vous lisez Romains 10, il est écrit, voilà, ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Au lieu de s'appuyer sur la justice du Christ, donc c'est l'autel qui est dehors dans le paradis, l'autel où l'agneau innocent est tué, ils viennent devant Dieu avec leur propre justice, un feu étranger. Et ça ne peut pas marcher. Et une chose que j'apprends, plus j'étudie la Bible, Dieu n'est pas du tout œcuménique. En fait, par contre, il y a dans des comportements pieux, dans les religions, quelles qu'elles soient, et Dieu voit les cœurs et va permettre à ces personnes d'être exposées à la vérité. Je pense par exemple à Corneille, qui était un homme qui craignait Dieu, qui priait. Et puis Dieu va envoyer Pierre pour lui faire découvrir l'évangile. Et j'ai la certitude que Dieu voit ceux qui sont sincèrement mal enseignés. Même Paul, à la limite, qui était enseigné dans la Bible, faisait tout le contraire de ce qu'il fallait. Et donc, finalement, il a dit « j'agissais par ignorance ». Et c'est un sujet très intéressant. Hein. Toutes les pages de la Bible parlent de ça, parce que vous avez Caïn et Abel. Pourquoi Dieu n'accepte-t-il pas l'offrande d'Abel?
De Caïn.
De Caïn, pardon. De Caïn qui est... Voilà, lui aussi, il veut faire quelque chose vers le Seigneur. Hein? Moi, j'ai quelque chose, même sur le masque, vous pouvez parler. Hein? N'hésitez pas. Donc, la nature du feu est en rapport avec l'idée de rendre à Dieu un culte en esprit, en vérité. Il faut... Jean, je pense à Jean, chapitre 4, les vrais adorateurs que le Père demande, ce sont des adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Donc, les prières sont l'expression d'une vie spirituelle.
C'est aussi ça que veut dire prier au nom de Jésus, c'est prier
oui.
sous l'autorité de Christ.
C'est ça,
par
c'est...
Oui. la justice de Christ.
Tout à fait, en invoquant celui qui nous ouvre la porte. Peut-être vous est-il arrivé d'être invité quelque part et par un ami, et puis vous vous approchez, vous dites « c'est un tel, je connais un tel qui m'a demandé ». Alors en fait, vous entrez au nom de, par le nom de. C'est un peu cette idée. Et en fait, sans le nom de Christ, les portes se ferment. Parce qu'il est impossible pour Dieu de nous accepter, parce qu'il faut régler le problème du péché. Et le problème du péché, il est réglé par Christ. Donc c'est la clé de tout. C'est la clé de tout. Donc quand on prie au nom de Jésus-Christ, on prie le Seigneur. Alors, certains disent, mais moi je ne sais pas prier Dieu. Moi, j'ai entendu parfois des sœurs en Christ prier au Seigneur Jésus. Elles s'adressent à Jésus continuellement. Bon, on s'adresse au Seigneur dans la Trinité, mais si on veut être précis, au fond on s'adresse à Dieu nous a donné un exemple, notre Père. On s'adresse au Père, au nom de Jésus-Christ, par le Saint-Esprit. En fait, toute la Trinité est impliquée dans la prière. Hein. Et Dieu est un seul Dieu, on prie le vrai Dieu. Et c'est pas catastrophique quand on dit Seigneur Jésus. Mais en fait, réellement, on est un peu dépassé parce que finalement, même la Trinité reste assez mystérieuse. Hein. On n'en saisit pas tous les contours. Alors nous allons voir maintenant dans Exode 30 la composition des parfums. Donc il y a des noms qui sont donnés. Exode 30, alors sauf erreur, c'est du verset 30. Est-ce que je me suis trompé? À partir du verset 34, jusqu'au verset 38. Tu veux nous le lire, Jean?
L'Éternel dit à Moïse, prends des aromates du stacté, de l'oncle odorant, du calbanu et de l'encens pur en partie égale. Tu feras avec cela un parfum composé selon l'art du parfumeur. Il sera salé, pur et sec. Tu le réduiras en poudre et tu le mettras devant le témoignage dans la table d'assignation où je me rencontrerai avec toi. Ce sera pour vous une chose très saine. Vous me verrez point pour vous, vous ne ferez point pour vous de parfums semblables dans les mêmes proportions. Vous le regarderez comme saint et réservé pour l'Éternel. Quiconque en fera de semblable pour le sentir sera retranché de son peuple.
Voilà, merci. Voilà. Donc, ces parfums étaient spécifiquement pour le tabernacle et le temple, et il n'était pas question, d'en faire autre chose, hein, c'était réservé au Seigneur. Alors, il y a des mots auxquels on n'est pas très habitué, mais bon, Georges s'en est bien sorti pour les lire, on ne les lit pas tous les jours. Donc, le premier, c'est le stacté, ou storax, selon les versions, je ne sais pas quelle version vous avez. Donc ce sont des boules, qui, une sorte de résine qui suinte du corps d'arbrisseau qui se trouvait dans les contrées, et qui a une résine couleur jaune, hein. Et d'ailleurs, si on avait des étudiants en pharmacie ou des pharmaciens, c'est des mots qu'ils reconnaîtraient, parce qu'ils sont utilisés, ces mots, le styrax, ce sont des éléments qui entrent dans la composition de médecine pour des affections, pour traiter des affections pulmonaires, ça entre dans la pharmacologie, hein. Et bien sûr, ils étaient brûlés en tant qu'encens. Et on en retrouve, alors, bon, j'avais regardé, mais bon, je l'ai effacé, mais j'ai fait une liste de tous les parfums de luxe pour dames où on retrouve certains de ces éléments. Et des éléments qui coûtent très cher, en fait. Hein, et qui sont cher, ouais. Dans la composition, dans Guérin, tout ça. Voilà. Mais en tout cas, ces résines odorantes, donc. Eh bien, permet de c'est un premier élément, hein, qui peut nous faire penser à la joie et à la reconnaissance, à la louange que nous avons. Donc, après, il y avait le staké, il y avait l'ongle odorant, certaines versions écriront onyx. Donc, celui-ci, il vient pas d'un arbre, il vient d'une partie d'un mollusque. Alors, donc, après avoir eu cette boule de résine très agréable, réjouissante, nous avons là autre chose qui est tirée de la mer. C'est un parfum qui s'exalte en combustion d'une partie d'un mollusque que l'on trouvait dans la mer Rouge. Alors, on y a vu peut-être là le symbole de la délivrance, de la séparation avec l'Égypte, avec le monde, par la traversée de la mer Rouge, et du changement de vie. Et Moïse et le peuple avaient chanté un cantique de louange et de délivrance juste après leur sortir de la mer Rouge, donc dans Exode 15. Hein, et c'est vrai que bien souvent, quand on entend les prières des chrétiens, on voit qu'un des éléments, c'est cette reconnaissance de cette vie nouvelle qui est hors d'Égypte maintenant. Hein, ce mollusque qui se trouvait dans la mer, hein, le Seigneur a ouvert la mer, et la Bible dit que nous avons été, ils ont été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Et nous, qui avons été baptisés en Christ, nous avons une vie qui est aussi ce parfum pour le Seigneur. Le calmanum est aussi une résine d'un arbre. Et donc, cette résine est caractérisée, quand on voit cet arbre, c'est comme si c'est des gouttes, ça ressemble beaucoup à des larmes. Alors certains commentateurs ont dit, mais on peut peut-être y voir là l'aspect de la souffrance, d'abord du Seigneur, du Seigneur qui a été transpercé à cause de nos crimes, et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Donc nous ne devons jamais oublier la profondeur de l'amour de Dieu pour nous permettre de nous approcher de lui. Et il y a plusieurs passages où nous voyons, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec, dans Hébreux 5, hein, dans les jours de sa chair, il a présenté avec de grands cris et larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et quand le Seigneur s'est approché au fond du lieu très saint en portant nos péchés, c'est un grand cri avec larmes. Parfois nous avons tendance à l'oublier. Dans sa chair, il a supplié d'être sauvé, et donc il a été exaucé après par la résurrection. Mais il a appris dans ces moments-là l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et cette souffrance, ces larmes, qui vont permettre en fait après que le voile se déchire et que enfin en Christ on puisse aller dans le lieu très saint, eh bien cette attitude, cet état du sacrificateur qui est dans une grande souffrance a été aussi l'objet pour les prophètes d'un vrai mystère. Et dans 1 Pierre, il est dit que les prophètes qui ont prophétisé la grâce de Dieu ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Alors on peut imaginer des prophètes de l'Ancien Testament, en principe, quel sujet nous ferait faire des recherches, des investigations. Alors moi j'ai vu des chrétiens faire des recherches et des investigations sur Genèse 1. Comment Dieu a créé le monde? Est-ce que c'est 6 jours? Est-ce que c'est... Qu'est-ce qui s'est passé? Et alors on recherche, et on... plein de théories, plein de choses. Ou alors sur la prophétie. Mais les prophètes étaient particulièrement intéressés de faire des recherches sur cette grâce qu'ils annonçaient. Parce que la grâce... et la croix était annoncée par l'Ancien Testament. Et comme nous l'avons vu dimanche, l'apôtre Paul rappelait que son témoignage de la découverte de Christ, il ne s'écarte en rien de ce qu'ont dit les prophètes. Et il voulait sonder les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestaient d'avance les souffrances de Christ. C'est assez étonnant, hein.
Oui, puis il est bien dit qu'à ce moment-là, c'était un mystère.
Oui.
Tout ça, c'était caché, donc ça leur donnait envie de découvrir.
Ouais. Alors, ce qui était surtout caché, quand Éphésiens parle de mystère, c'est le fait que juifs et non-juifs deviennent un seul corps. Donc, l'identité de l'Église n'apparaît pas tellement dans les prophéties. La venue du Saint-Esprit, oui, mais pas cette réalité. Mais par contre, les souffrances sont bien souvent, de bien des manières, exposées dans l'Ancien Testament. Mais une des conséquences de ces souffrances qui allait être la naissance de l'Église, et c'est vrai, c'est un vrai mystère. Puis à l'encens, qui a été considéré comme un parfum royal et noble, hein, et quand les mages sont arrivés d'Orient, pour se prosterner devant le roi d'Israël, ils ont offert de l'encens. Alors tous ces parfums sont en quantité égale, mais qui ne sont pas précisés. Alors on peut, si vous regardez des commentaires, on fait des projections de ce que peut représenter tel ou tel parfum, et c'est à la fois, il y a une part d'arriver devant le Seigneur avec des souffrances, mais en fait, nous arrivons devant le Seigneur, pas avec nos larmes, mais d'abord avec les larmes du Seigneur, lui-même. Et c'est pour ça qu'on peut y arriver. Avec de la joie, avec de la reconnaissance, avec... Voilà. Tout ce qu'a fait le Seigneur est multiple, et on ne peut pas les quantifier.
Et tous ces aromates-là représentent la perfection de Jésus.
Oui, oui, tout à fait. Sa perfection, son... et puis en lui, nous, quand on s'approche de Dieu, quand nous-mêmes... Il y a aussi ce verset que vous connaissez bien dans Romains 12, 1. Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, parce qu'on ne peut pas nous s'offrir comme un sacrifice. C'est Christ qui est passé par le premier autel extérieur où son sang était versé. Mais en lui, donc nous sommes au bénéfice de la croix, mais en lui, nous apportons une offrande qui est un véritable parfum. Et je vous exhorte, dit Romains 12, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Autrement dit, quand, vous savez que quand on accepte le Seigneur, on devient le temple du Saint-Esprit. Alors, c'est étonnant parce qu'en nous est reproduit aussi le Seigneur habite en nous. Donc, comme il était venu dans le temple, il est en nous aussi. Et donc, toute notre vie, c'est le privilège de pouvoir être dans cette relation avec Dieu. Et la communion que nous avons avec Dieu est un véritable parfum. Où que nous soyons, au fond, le Nouveau Testament, ça, vous connaissez ce passage qui dit « Nous sommes une bonne odeur de Jésus-Christ ». Nous répandons un parfum. Et spirituellement, dans notre être, nous pouvons être un autel, un parfum pour le Seigneur très puissant, très très, très important. Mais tout dépend aussi de si nous savons, alors chaque matin était renouvelé, non pas le brasier, mais les parfums, et de nouveaux parfums étaient à nouveau brûlés tous les jours. Et le tabernacle était rempli de ces parfums qui symbolisent en fait notre communion avec le Seigneur et nos prières qui sont comme un encens. Et notre relation, enfin, quand on dit prière, c'est bien plus profond. Et le mot prière, parfois, j'aime pas toujours l'employer parce que tout de suite on est fixé à certaines choses. Moi je me souviens quand j'étais petit, on m'obligeait à faire des prières. Alors, j'ai le souvenir que le mot prière était lié à une obligation qui était complètement vide de sens. Mais si on me dit, est-ce que tu as envie d'avoir une relation avec quelqu'un, et une relation riche, en oubliant le mot prière, c'est beaucoup plus attractif. Enfin, c'est ça. Parce que c'est un grand privilège d'être en contact avec Dieu. Et d'être imprégné de sa personne, de son caractère, de ses attributs, de sa perfection. Et le Dieu que je rencontre dans l'intimité, grâce à Christ, est un Dieu à la fois fidèle, éternel, puissant et qui m'aime. Donc, quand vous avez quelqu'un d'éternel, puissant, qui a créé le ciel et la terre, et qui aime prendre du temps avec vous, vous dites, oh, quel privilège. Tout d'un coup, on le voit un peu différemment. Il y a des gens très importants. Là, il y avait, ça me fait penser, là, j'ai encore l'image de ce gars complètement hystérique qui faisait des bombes, parce qu'il était devant l'hôpital où était Trump, et à un moment donné, le président est sorti avec la voiture. Et lui, il l'a vu, il a fait ça, et Trump lui a fait ça. Alors là, il en avait pour le reste de sa vie. Il lui a répondu par le même signe, Vous rendez compte, Trump a fait ça. Alors, il était comblé de chez comblé. Il y en a pour des semaines à s'en remettre. Ça, c'est sûr.
On est fan, hein?
On est fan, on n'est pas fan. Mais bon, voilà.
Ah, sur les scènes de spectacle.
Oui, c'est ça.
Il suffit d'un petit regard, alors on croit que c'est. Pour moi, la photose.
Et vous vous rendez compte, le Dieu créateur du ciel et de la terre, son plus grand plaisir, c'est de pouvoir justement nous accueillir. Et de pouvoir. Et chaque mot qu'on exprime, chaque chose que. Eh bien, c'est comme un élément de parfum qui brûle. C'est assez extraordinaire, finalement, quand on y pense. Hein? Et donc. Oui?
Non, juste, c'est pas ce matin, mais. Je ne sais pas si c'est Paul qui dit, mais qu'on ait une agréable odeur au Seigneur.
Oui, c'est ça. Tout à fait. C'est bien ça. Alors c'est vrai que est-ce que combien d'entre vous on leur a appris des prières quand ils étaient petits?
C'est l'église catholique, non? Tous ceux qui sont passés par exemple par l'église.
Non mais je vois. Combien d'entre vous? Oui. Vous êtes? Oui. Et oui.
Les prières que vous faites.
Voilà.
Comme le Je vous salue Marie.
Voilà, il y a le Je vous salue.
Le credo.
Hein?
Le credo.
Le
credo des apôtres, ou moins souvent. Le
credo.
Notre Père aussi.
Oui.
Notre Père.
Notre Père.
C'est pas le credo, hein, notre Père. Le credo, c'est encore autre chose.
Oui, non.
Ouais. Je crois à la Sainte Trinité.
Je crois à la Sainte Église catholique.
C'est vrai. Et on peut regarder Matthieu 6. On va regarder Matthieu 6. Alors, je me suis trouvé parfois dans des rassemblements évangéliques où tout le monde récitait le Notre Père. Et je peux le faire, mais ça me rappelle tellement quand j'étais à l'église catholique, j'y arrive pas. Mais le problème, c'est que c'est un passage biblique. Alors, qu'est-ce que vous en faites, vous? Du passage.
Moi, ça ne me dérange pas, le réciter.
Mais vous êtes l'arrière-plan catholique, hein?
Non.
Non?
Non, ça ne me fait pas.
Ah oui, mais alors c'est différent, ça explique. Mais quand on a récité ça devant des statues et tout, c'est plus compliqué à faire. Dans Romains 6, verset 6, Matthieu 6.
Matthieu 6.
Pardon? Quand il est dit, voilà.
Verset 9.
Alors, on va lire la partie du verset 6, parce que c'est un ensemble de conseils pour prier. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas des paroles, comme le font les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ce qui nous montre bien que tous les païens, même qui ne connaissent pas Dieu, ont aussi un système de prière. Et ils pensent qu'en multipliant, et je me souviens, moi quand j'allais me confesser devant le prêtre, plus la faute était lourde, plus le nombre de notre Père augmentait. Donc c'était proportionnel. Donc, il fallait que je récite. Voilà. Voici donc comment vous devez prier. Et puis, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Et donc, nous savons ce qu'est un Père, hein, mais la grande question, nous nous apercevons que, après, dans le Nouveau Testament, Paul va dire, voilà, j'ai prié pour vous, voilà ce que j'ai prié, et les prières, c'est vraiment un dialogue. Ce n'est pas simplement de réciter les mêmes phrases. Avec les gens que vous aimez, vous ne dites pas toujours les mêmes phrases. Sauf si vous avez du mal à comprendre et il faut insister avec la personne. Vous dire la même chose, mais ça c'est un autre sujet. Et comme quelqu'un l'a dit, ici les disciples n'ont pas dit « Seigneur, enseigne-nous une prière ». Je répète, les disciples n'ont pas dit « enseigne-nous une prière », mais « enseigne-nous comment prier ». Et d'autant que le Seigneur vient de mettre en garde les disciples de ne pas multiplier les paroles, donc il n'est pas question de réciter ce texte continuellement. Parce que non seulement c'était récité, mais c'était continuellement que ça. Comme une litanie, voilà. Et vous avez, une fois un homme de Dieu m'avait dit, mais c'est vraiment comme un plan, c'est un exemple. Et si on le voit comme un exemple, voilà, c'est comme quand vous avez appris le français, parce que chacun de nous, on a appris le français, même si on est français, on a appris le français quand il y avait des phrases, je me souviens, maman est à la cuisine, elle fait du pain, alors il fallait écrire ça, voilà, donc j'apprenais le français avec cette phrase, mais je ne vais pas passer ma vie à dire maman est à la cuisine, elle fait du pain. Si je croise quelqu'un, elle dit, ah, comment ça va là? Maman est dans la cuisine, elle fait du pain. Voilà, moi je travaille, alors qu'est-ce que vous désirez faire? Maman est dans la cuisine, elle fait du pain. Il arrive un moment où l'exemple est un exemple. C'est... Vous voyez? Et c'est comme ça que je le comprends de plus en plus, ce texte. Et vous avez deux parties, la gloire de Dieu, le nom de Dieu, le règne de Dieu, la volonté de Dieu. Bon, on peut faire une étude biblique sur chaque phrase, c'est très très riche et très. Peut-être un dimanche je le prendrai ce texte. Parce que... Et puis après, en deuxième partie, vous avez les besoins de l'homme, le pain quotidien, le pardon et la délivrance du mal. Et quand on s'adresse à Dieu, il est bon de garder ces éléments. D'abord, d'être centré sur Dieu, sur son nom, son règne, sa volonté, et puis après, apporter nos besoins. Et là, c'est une chronologie que Dieu nous donne aussi. Alors que souvent, on la sort de cette chronologie. On arrive, bon, Seigneur, j'ai besoin de ça, ça, ça. On fait un peu ou à l'envers, où on est plus centré sur nous. Hein. Et donc, voilà un exemple très intéressant sur le. Qui nous est dit, donné ici. Donc, ce que j'aime aussi dans les versets 6 et 8, c'est que celui à qui on s'adresse, il est là, il voit et il sait. Et donc, on pourrait dire en conclusion ce soir que par Christ, nous sommes attendus et nous devons apprendre à dialoguer. Alors, vous connaissez ce verset, prier sans cesse. Alors, on se dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va, à un moment donné, briser le cadre des choses fixées. Bon, on prie le matin, on prie peut-être à tel moment. Et puis, tout d'un coup, il doit arriver dans notre croissance de vie chrétienne où on bascule dans un dialogue quasi continuel, où on reste tout en faisant d'autres choses, en achetant le pain, en travaillant, en étant concentré sur d'autres choses, une part de nous reste en communion aussi.
C'est un contact avec Dieu.
Voilà. Et c'est ça de prier sans cesse, d'être conscient que de la présence de Dieu.
L'esprit nous parle.
Et que et quand on fait ça, après, évidemment, on est moins, comment dire, on est beaucoup plus gardé que si on a des périodes très longues où on zappe totalement. Ah oui, c'est vrai, je suis chrétien, il ne faut pas que j'oublie. Et on revient.
Je pense que c'est valable. Bon, le fait de prier, mais le fait aussi de rester dans l'enseignement du Seigneur. Voilà. Parce que c'est vrai qu'on est vite appelé à penser à autre chose et on peut vite s'écarter, mais en restant en contact avec lui.
Et dans les versets, voilà, moi j'aime beaucoup ces versets. Ton Père qui est là, ton Père qui voit, ton Père qui sait toutes choses. Donc il est très concerné par ce dialogue. Et il y avait une anecdote qui avait été donnée là, c'était du temps du prédicateur Moody à Chicago. Et donc, c'était des rencontres où il y avait beaucoup de monde. Hein. Et à la fin de la rencontre, un enfant a été retrouvé. Et évidemment, il avait perdu son père. Il était venu avec son père. Oui, je suis venu avec papa. Et voilà, donc, je ne sais pas où il est et tout. Alors, il est placé sur l'estrade et on fait l'annonce. Voilà, nous avons un enfant. Où est le père, etc. Et puis tout d'un coup, on voit, oui, j'arrive. Et on voit le père tout affolé qui arrive, oh mon fils, t'es là. Et il nous dit, devant, il y avait peut-être 5000 personnes, hein, il prend le micro, il dit devant tout le monde, vous voyez, le père semble avoir beaucoup plus de soucis de retrouver son fils que le fils n'en a de retrouver le père. Parce que le fils, il était là, tranquille. Mais c'était le père qui était affolé. Et moi, je crois que c'est souvent le cas dans la vie chrétienne. Le père est beaucoup plus affolé, mais quand est-ce qu'il va me parler, quand est-ce qu'il va s'approcher que nous Et comme quelqu'un avait aussi dit, si vous sentez qu'il y a de la distance entre vous et Dieu, cherchez pas, vous allez vite comprendre qui a bougé. Celui qui a bougé, ben c'est nous, hein. C'est pas Dieu.
J'ai été frappé aujourd'hui en lisant, c'est l'apôtre Paul qui dit comme ça, si nous sommes infidèles, lui.
Il demeure fidèle.
Et ça répond un peu à ce que tu dis, le voilà. Père est plus que.
Tout à fait. Voilà ce que je voulais partager ce soir. C'est une bonne chose. Et là, donc après, nous allons continuer, nous allons voir le sacrificateur. Vous commencerez à regarder aussi ce qu'il doit faire, pas faire, les habits aussi. On va parler chiffon à un moment donné. Comment il s'habille, c'est des choses très intéressantes. Et ce qu'il doit faire, etc. Et puis, évidemment, après, on va parler de l'arche. L'arche de l'alliance, qui est le point vraiment central de la rencontre entre Dieu et l'homme. Bien, on va peut-être terminer la prière. Je peux te demander la prière, merci. Merci.
Oui, notre Dieu, Père, merci vraiment pour toi pour ce moment que tu nous as permis de passer ensemble, Seigneur, autour de ta parole. Merci pour ta présence parmi nous. Merci pour ces enseignements, Père, pour avoir. Merci, Père, pour ce privilège, Seigneur, que tu nous donnes de nous approcher de toi vraiment par Jésus-Christ. Et c'est vrai qu'on n'est pas digne d'être devant ta face, on n'est pas digne de nous approcher de toi, Seigneur, mais dans ta grâce et en Jésus-Christ, tu nous acceptes vraiment parmi nous, dans ta présence. Père. Merci pour cela et je te prie de toucher, Seigneur, par ton esprit, à ce qu'on puisse vraiment penser à profiter de cette bénédiction, Seigneur, de te connaître, de s'approcher de toi le plus souvent possible, Père. Je te prie de bénir aussi cette soirée, de nous garder, de nous protéger dans notre tour.